Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 3. Le secret du masque noir. Un tronc de sapin ébranché et jeté d'une rive à l'autre formait un pont fragile et mouvant sur lequel il fallait se hasarder. De l'autre côté du torrent étaient deux montagnards. Le premier se tenait penché tout prêt à précipiter le sapin dans l'abîme au moindre signal d'alarme. Le second épaulait son mousquet en criant « Qui va là ?»« Saint-Claude et Lacuzon, » répondit Raoul. « Passez, » dit le montagnard. Et comme la précédente sentinelle, il fit retentir à deux reprises la trompe rustique qu'il portait suspendue à son cou. Raoul, tout frémissant, traversa le pont dangereux qu'il sentait vaciller sous le poids de son corps, et il fut bien forcé de s'avouer à lui-même que des épées et des mousquets dirigés contre lui lui causeraient moins d'épouvante que ces périls sans cesse renaissant de la montagne. Le sentier côtoyait pas à pas le lit du torrent, et par une pente rapide sur laquelle de grosses pierres semées çà et là formaient comme une ébauche d'escalier, descendait jusqu'au niveau du bassin dans lequel le hérisson, lancé de 100 pieds de haut, s'engouffrait pour en ressortir bouillonnant, large et majestueux, et plutôt fleuve que rivière. « C'est là qu'il nous faut passer, » dit Maggie en arrêtant son compagnon sur la marge glissante du bassin et en parlant assez haut pour que le bruit de ses paroles ne se confondît point avec le tonnerre des eaux mugissantes. « Là ?» répéta Raoul avec stupeur. « Mais c'est impossible !» Les flots bouillonnent contre les rochers comme dans les chaudières de Satan. Le plus hardi nageur serait brisé 1000 fois s'il tentait de traverser le torrent. En ce moment, et comme pour confirmer les paroles du jeune homme, un chêne gigantesque, déraciné par quelque orage, glissa le long de la cascade éblouissante, s'abîma dans le gouffre, et pas une de ses branches ne reparut à la surface. L'arbre tout entier venait de s'anéantir dans des profondeurs inconnues. « Voyez, » dit Raoul, « voyez !» Maggie le saisit par la main. « Fermez les yeux, » lui dit-elle, « et suivez-moi. » Raoul obéit. Au bout de 2 ou 3 secondes, la vieille femme cessa de marcher, et Raoul, éprouvant une sensation de froid glacial et sentant un vent plus aigu que la bise d'hiver le fouetter au visage, ouvrit les yeux et regarda. Maggie l'avait amené sous la cascade même, et tous deux se trouvaient debout sur une étroite saillie entre le rocher et la chute d'eau, dont la nappe incessante formait comme un voile étrange, qui, malgré sa transparence, ne permettait point de distinguer d'une façon complète les objets placés de l'autre côté. Le flot succédant au flot refoulait sans cesse les couches d'air dans cet étroit espace, et causait ce vent continuel et ce froid glacial dont Raoul ressentait les morsures. Ces masses liquides, métamorphosées dans leur chute en une sorte de poussière humide, roulaient dans l'abîme ainsi qu'un brouillard, et rendaient plus glissante que du verglas la corniche que foulaient les pieds de Raoul. Ce dernier dégagea vivement sa main que Maggie tenait et se précipita sur l'autre bord. Quand il sentit l'air libre baigner son front, quand il ne vit plus entre ses regards et l'horizon cette formidable cataracte qui semblait l'emprisonner et le séparer à tout jamais d'une atmosphère respirable, il éprouva une sensation délicieuse. Il lui sembla qu'il revenait à la vie. « Nous touchons au but de notre voyage, » dit Maggie. « Le trou des gangones est situé parmi les rochers qui dominent le petit bois dans lequel nous entrons. »« Que Dieu en soit béni, » répondit Raoul. « Il était temps, car mes forces sont à bout. » À peine la vieille femme et le jeune homme avaient-ils fait quelques pas sous les arbres dépouillés, que 3 hommes parurent devant eux. L'un de ces 3 hommes était Garbas. « Ah, messire, » dit-il à Raoul, « comme vous avez tardé, et avec quelle impatience vous êtes attendu. Prévenez le capitaine que me voici, je vous prie. »« Le prévenir? Croyez-vous donc qu'il ne sache point votre arrivée? Et comment serait-il instruit? Aucun étranger ne met le pied sur les domaines des corps francs sans qu'un éclaireur vienne annoncer son approche au trou des gangones. Il y a près d'une heure que le capitaine connaît votre présence sur les bords du hérisson. Eh bien, hâtons-nous d'aller le rejoindre. » Garbas passa le premier. À la sortie du bois se trouvait un talus incliné, couronnée par une gigantesque muraille de rochers à pic. Au sommet du talus et à la naissance du roc s'ouvrait une large et béante ouverture dont les arceaux de plus en plus sombres et finissant par se perdre dans une obscurité complète indiquaient la profondeur. C'était l'entrée du trou des Gangones. La caverne, au moment où Raoul et Magui en franchirent le seuil, offrait un spectacle digne des pinceaux de Salvator ou de Rembrandt. Une centaine de montagnards, isolés ou par groupes, se disséminaient çà et là sous les voûtes, dans les attitudes les plus variées et les plus pittoresques. Les uns, enveloppés dans leurs surtouts de peau de mouton et couchés sur des bottes de paille, dormaient les poings fermés. D'autres, assis sur des fragments de rochers ou sur des troncs d'arbres coupés en billots, nettoyaient les lames de leurs rapières et les canons de leurs mousquets. D'autres, enfin, entouraient un grand feu de fascine qui brûlait au milieu de la caverne et dont la fumée montait jusqu'à la voûte en spirale capricieuse. Trois piquets entrecroisés soutenaient au-dessus de ce feu une énorme marmite dans laquelle cuisait à gros bouillon un mouton tout entier. Plusieurs moutons vivants, parqués dans un angle où les retenaient des palissades de cordes et de broussailles, bêlaient en grignotant le foin placé devant eux et indiquaient suffisamment que les hommes de l'Accuson étaient approvisionnés de vivres pour bien des jours. Deux sentinelles, l'arme au bras, allaient et venaient d'un pas mesuré dans toute la longueur de l'entrée de la caverne, se rejoignant à la moitié du parcours et se tournant le dos ensuite avec une régularité militaire. « Je ne vois pas le capitaine, » dit Raoul en promenant autour de lui un regard investigateur. « Ceci est la caverne des soldats, » répliqua Garbas avec un sourire. « Je vais vous conduire au logis du chef. Mais j'ai l'ordre de vous introduire seul, messire Raoul. Cette femme doit attendre là où nous sommes. » « Elle m'a guidé jusqu'ici, » fit vivement le jeune homme. « Sans elle, j'aurais péri misérablement. Il est urgent qu'elle parle à l'accusé sur le champ. Laissez-la m'accompagner. » « Impossible. La consigne est la consigne. Parlez au capitaine. Le capitaine donnera des ordres. » « Oui, oui, messire, » interrompit Magui. « Hâtez-vous. Dites au capitaine ce que vous savez, et il ne me fera pas attendre longtemps. » « Venez, messire, » reprit Garbas. Raoul suivit son guide qui s'enfonça dans les profondeurs de la caverne. Ils trouvèrent sur leur droite un escalier pratiqué dans le roc et qui montait à une seconde grotte, formant comme un deuxième étage au-dessus de la première, et éclairé par une fissure assez semblable à une fenêtre étroite et longue, depuis laquelle on découvrait toute la vallée. L'accuson, Barros et Marquis étaient assis sur des bottes de paille autour d'un billot de chêne servant de table. Le colonel et le prêtre serrèrent les mains de Raoul. L'accusant lui tendit les bras avec effusion. Mais après cette vive étreinte, sa première parole fut celle-ci. « Églantine, où est Églantine? Comment revenez-vous sans la ramener ?»« Ne m'accusez pas, mon frère, » répondit vivement Raoul. « C'est en m'assassinant lâchement et par derrière qu'on m'a séparé d'elle. Mais nous avons un moyen de savoir où on l'a conduite, et nous la retrouverons, je vous le jure. » « Ce moyen ?» demanda le curé Marquis. « Pourquoi donc ne l'avez-vous pas employé ?»« Parce que la femme qui possède ce secret ne consent à me le révéler qu'en présence du capitaine. »« Quelle est cette femme ?»« Vous la connaissez sous le nom de Magui la sorcière. »« Magui la sorcière ?» répéta le curé Marquis. « Une mendiante, une vagabonde, et peut-être pis. Et vous avez confiance en elle ?»« Une confiance entière, absolue. » »« Qu'a-t-elle donc fait pour la mériter ?» Raoul raconta brièvement les événements de la journée et de la nuit précédente et le rôle joué par Magui dans ces événements. « Il a raison, » dit le capitaine après avoir écouté, « et je sens que moi aussi j'ai confiance en cette femme. » L'accuson appela Garbas qui attendait sur l'escalier et lui enjoignit d'amener à l'instant Magui. Tandis que le trompette exécutait cet ordre, le capitaine expliqua à Raoul que la veille, ne l'ayant pas trouvé au rendez-vous donné, et forcé de s'éloigner avec sa bande, il avait laissé à sa place un montagnard chargé de l'attendre et de le guider ainsi qu'Églantine jusqu'au trou des Gangones. Mais le jeune homme n'était point allé au lieu indiqué, où sans doute le montagnard attendait encore. En ce moment, Garbas reparut avec Magui. « Femme, lui dit le curé Marquis, approchez et soyez sans crainte. Votre renommée est mauvaise. Le surnom que vous portez l'indique assez. Mais Dieu lit dans les cœurs. Et peut-être le vôtre est-il bon, malgré tout ce qui se dit de vous. Enfin, quoi que vous soyez, nous vous devons des remerciements pour votre conduite à l'égard de messire Raoul, notre ami. Vous avez bien agi.
Je n'ai fait que mon devoir, répondit humblement Mighty. Dieu nous ordonne de rendre le bien pour le mal. J'ai rendu le bien pour le bien, voilà tout. Je ne mérite pas même un éloge.
Un ami des Cuanais, un gentilhomme, s'est mis en péril pour sauver la vie inutile et méprisée de Mighty la sorcière. Désormais, Mighty donnerait pour ce gentilhomme et pour les Cuanais son sang, sa vie et jusqu'à son âme.
La reconnaissance est une noble et sainte vertu, mais c'est par des actions et non par des paroles qu'elle se prouve.
Vous avez bien commencé, continuez.
Je suis prête à tout.
Vous avez dit à messire Raoul que vous saviez où le misérable ravisseur avait conduit Églantine.
Et c'est la vérité, je le sais.
Vous avez ajouté qu'en présence du capitaine Lacuzon, vous révéleriez le nom et la demeure de l'homme au masque noir.
Je tiendrai ma promesse.
Voilà le capitaine Lacuzon. Voilà le colonel Varoz. Et vous savez sans doute que je suis le curé marquis.
Pouvez-vous parler devant nous trois?
Oui, messire prêtre, je le puis et je le veux.
Eh bien, parlez donc, et je vous jure que vous serez largement récompensé.
Mighty secoua la tête.
Oh, messire prêtre, murmura-t-elle, ce n'est pas dans l'espoir d'une récompense que j'ai agi, ni que je veux agir.
Parlez, je vous le répète, et Dieu vous paiera dans le ciel le bien que vous aurez fait sur la terre.
Me promettez-vous d'ajouter foi à mes paroles?
Oui, si vous jurez sur le salut de votre âme, de ne dire que la vérité.
Sur le salut de mon âme, messire prêtre, je jure que pas une parole mensongère ne sortira de ma bouche.
Je reçois votre serment, femme, et je vous fais pour moi et pour mes compagnons la promesse que vous demandez.
Et vous engagez-vous aussi à tirer vengeance du traître auquel un misérable a vendu votre nièce?
Vous engagez-vous à le punir, quel qu'il soit?
Quel qu'il soit, nous le punirons, répondit Marquis.
Et j'atteste le Christ, sur lequel j'étends la main, que justice sera faite.
Par mes cheveux blancs, je le jure, s'écria Varoz.
Je le jure par mon épée, dit le capitaine.
Je le jure par Églantine elle-même, fit Raoul à son tour.
Mighty promena pendant quelques secondes un regard profond sur ces quatre hommes qui attendaient avec une anxiété fiévreuse le premier mot qu'elle allait prononcer. Puis ses yeux se tournèrent vers la fissure du rocher qui laissait la lumière entrer à flot dans la grotte. Dans un lointain brumeux, on entrevoyait la silhouette sombre du château de l'Aigle se dessinant sur le ciel gris. Le bras de Mighty se souleva, sa main s'étendit dans la direction du manoir sinistre.
« C'est là qu'est Églantine, » dit-elle ensuite d'une voix éclatante.
« C'est là qu'il faut l'aller chercher. C'est là que vous la trouverez. »«
Où donc ?» demandèrent à la fois Lacuzon, Varoz et Marquis.
Raoul avait compris déjà et n'interrogeait pas.
« Au château de l'Aigle, » répondit fermement la vieille femme.
« Au château de l'Aigle, où le gris Limassou l'a portée cette nuit pour la vendre comme otage au plus lâche de tous les traîtres. Au puissant et noble seigneur Antide de Montaigu.
Antide de Montaigu? Répéta le curé marquis avec stupeur. Femme, songez-vous bien à ce que vous dites?
Si j'ai menti ou calomnié, s'écria Mighty avec impétuosité, que Dieu qui m'entend envoie la foudre me démentir.
Le tonnerre auquel la vieille femme faisait appel serait en ce moment tombé dans le trou des gangones sans produire une plus formidable impression que les paroles de Mighty. Une incroyable stupeur se peignit sur les traits des triumvirs de la montagne. Raoul seul avait aux lèvres un sourire de triomphe. Rien ne l'étonnait, rien n'était imprévu pour lui dans l'accusation si énergiquement formulée par la vieille femme. Mais il ne voulait point intervenir, quant à présent du moins, et il garda le silence. Colonel Varoz, les sourcils froncés et les yeux pleins d'éclairs, tordait ses longues et rudes moustaches blanches. Le curé marquis attachait sur Mighty un regard qui semblait vouloir fouiller jusque dans les plus profonds replis de son âme.
Lacuzon baissait la tête.
« Mais, s'écria-t-il enfin, si vous dites vrai, femme, si Églantine est en effet au château de l'Aigle, elle est sauvée. »«
Sauvée ?
répéta Maggie en regardant le capitaine avec étonnement, comme pour chercher dans l'expression de sa figure le sens du mot qu'il venait de prononcer et qu'elle ne comprenait pas. « Sauver ? » dit-elle pour la seconde fois. « Comment sauver ? Pourquoi sauver ? »
Antide de Montaigu est notre fidèle allié.
L'un des fermes soutiens de notre cause, fit le capitaine. Le visage de Maggie se décomposa. Ses lèvres pâlirent. De fauves étincelles semblèrent jaillir de ses prunelles.
Antide de Montaigu, un allié fidèle, répliqua-t-elle d'une voix rauque. Êtes-vous donc assez abandonné de Dieu pour être aveugle jusqu'au point de croire cela?
Antide de Montaigu, votre allié, votre ami, lui? Lui, l'homme au masque noir?
Ah! Murmura Raoul qui ne pouvait se contenir davantage. Vous voyez, je vous l'avais bien dit.
Et moi je dis, s'écria le colonel Varose en se levant tout à coup et en appuyant la main sur la garde de sa longue épée. Je dis que cette femme a raison. Je dis que les pressentiments de Raoul ne le trompaient pas. Je dis qu'Antide de Montaigu est un traître.
Raoul s'élança vers le colonel et pressa chaleureusement les vaillantes et fortes mains du vieil ami de son père.
« Prenez garde, colonel, dit le curé marquis. Un ressentiment mal éteint peut vous rendre cruellement injuste. Vous haïssiez jadis Antide de Montaigu. »«
Eh bien oui, mordieu, répliqua Varose. Et je le hais encore, et je le dis bien haut aujourd'hui, quoique depuis 20 ans je cache cette haine au plus profond de mon cœur. Oui, je hais Antide de Montaigu. Je le hais et je le méprise. Et si pendant tant d'années j'ai su me taire et me contraindre, si j'ai cherché à arriver, non pas au pardon, mais à l'oubli, c'est que je sacrifiais tout mon être, mes rancunes, mes convictions, mes attachements à cet ardent amour que j'ai pour mon pays. Chaque fois que je me trouvais en présence du Seigneur de l'Aigle, je sentais quelque chose se soulever et se révolter en moi. Une voix intérieure me criait « Voilà le ravisseur de Blanche, voilà l'assassin de Tristan, voilà l'incendiaire de Champ d'Hiver. » J'essayais de douter. Je luttais contre moi-même, mais j'étais toujours vaincu. Et cependant, je me taisais, et je commandais à mon visage de rester calme, tandis qu'un ouragan de colère et de vengeance grondait dans mon âme. C'est qu'alors je me disais comme vous, peut-être est-ce un allié fidèle, mais aujourd'hui je ne puis plus, je ne veux plus douter. La vérité éclate à mes yeux. Le ravisseur, l'assassin, l'incendiaire est traître à son drapeau comme à tout le reste. Ce même masque noir que le gentilhomme félon et lâche portait autrefois pour protéger ses crimes, il le porte aujourd'hui pour vendre sa province. Le meurtrier de Champ d'Hiver est aussi le meurtrier de Pierre Prost et le complice de l'Espinassou. J'ai nos deux amis à venger. J'ai mon pays à venger. J'ai notre fille d'adoption à venger. Il faut que la haine et l'indignation débordent. Il faut que l'heure de la vengeance sonne enfin.
« Oui, répéta Raoul, vengeance, vengeance. »«
Es-tu convaincu, Jean-Claude ? » demanda Varose au capitaine.
« Pas encore, répondit ce dernier. Je veux tenter une suprême épreuve. »«
Laquelle ?
Je vais aller au château de l'Aigle. »«
À la tête de nos montagnards ? » ?»«
Seul et sans autres armes que mon épée. »«
Et que feras-tu ?
Je parlerai au sire de Montaigu ? »
Je lui dirai bien en face quelle accusation plane sur lui, et je saurai lire la vérité dans son regard et dans l'accent de sa réponse.
Maggie eut un éclat de rire sinistre.
« Ah ! Capitaine l'accusons, dit-elle. « C'est bien parlé, cela. »«
Oui, allez au château de l'Aigle. Allez-y seul et sans défiance. Dites en face à Antide de Montaigu que vous savez le secret du masque noir. Dites-lui cela, et ce soir vous vous endormirez dans un cachot. » Et demain, le sire de l'Aigle, qui n'aura plus rien à cacher, vous enverra sous bonne escorte dans le bas pays, à ses amis les Français ou à ses amis les Suédois. Et après-demain, le comte de Guébriant ou le marquis de Villeroy feront de vous ce que le maréchal de Biron fit à Arbois en 1575 de Joseph Morel, dit le petit prince. Ils donneront l'ordre de vous accrocher pendant leur déjeuner à la plus belle branche d'un arbre, ce qui leur procurera la joie vive de vous voir rendre l'âme au dessert.
« Allez, capitaine, allez!
Mais avant de partir, ne dites point au revoir à vos compagnons. Dites-leur adieu, je vous le conseille, car vous ne le reverrez plus en ce monde. »
Un silence d'un instant suivit les dernières paroles de Maggie. Le curé marquis rompit le silence.
« Femme, dit-il avec une gravité solennelle, avez-vous bien réfléchi à toute la portée de vos terribles accusations ?»«
Croyez-vous donc, messire prêtre, répondit-elle, croyez-vous qu'on parle à la légère quand on a comme moi les pieds dans la tombe et qu'on a juré sur le salut de son âme de ne faire entendre que la vérité ?»«
Et tout ce que vous avez dit, vous le maintenez ?»«
Je le maintiens. »
Ainsi, vous affirmez qu'Églantine est en ce moment au château de l'Aigle.
Je l'affirme.
Vous affirmez que le seigneur au masque noir est en titre de Montaigu.
Oui, 100 fois oui.
Vous affirmez, par conséquent, qu'en titre de Montaigu, qui se dit notre allié et qui cependant pactise avec nos sanguinaires ennemis, est un lâche et un traître.
Je l'accuse de trahison et d'infamie, et je demande qu'on fasse tomber ma tête s'il est reconnu que mon accusation est mensongère.
Mais cette trahison, elle existe depuis longtemps ?
Certes.
Et depuis longtemps, vous la connaissez ?
Oui.
Et vous en convenez ?
Et pourquoi n'en conviendrais-je pas ?
Vous saviez que nous étions trahis et vendus, femme, et vous ne nous en préveniez point ?
Et pourquoi donc l'aurais-je fait ? Demanda Maggie avec calme.
Le curé marquis la regarda d'un air profondément étonné.
Le médecin des pauvres, chapitre 4. Une résolution.
Oui, répéta Maggie, pourquoi l'aurais-je fait ?
Est-ce que jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où j'ai contracté envers l'un des vôtres une dette de reconnaissance que je vais acquitter même au prix de ma vie ? Est-ce que les montagnards n'étaient pas mes ennemis aussi bien que les Gris et les Suédois ? Quelle raison pouvait me pousser à prendre parti pour les uns contre les autres, moi que les uns et les autres accablaient de leur mépris, de leurs injures ? Est-ce que les hommes du capitaine Prost ne m'appelaient pas Maggie la sorcière, aussi bien que les soldats de Guébriand et que les bandits de l'Espinassou ? Et pourquoi s'accordaient-ils tous à me nommer ainsi ? À qui donc avais-je fait du mal ? Pauvre créature inoffensive que je suis. Vous prévenir? Et comment? Voyez-vous la sorcière arrêtant quelqu'un de vos chefs dans les rues d'une ville, sur un chemin, dans une forêt? Avec quel dédain l'eût-il repoussé en lui disant « Au large, sorcière! Au large, gibier de potence et de fagot! Va te faire pendre plus loin !» Et si, non découragée, Maggie avait voulu vous éclairer, malgré vous, et vous venir trouver ici, au fond de vos domaines. La voyez-vous dans les bois, de l'autre côté de la cascade, errant avec sa besace et ses haillons, et cherchant son chemin ? Un montagnard lui crie « Qui va là ? » C'est elle le mot d'ordre ? Non. La balle d'un mousquet, ensevelie à tout jamais dans sa poitrine le secret du masque noir. Vous prévenir ? Non, messire prêtre, je ne le pouvais pas. Je ne le devais pas. Je ne le voulais pas. Aujourd'hui, je me suis donné à votre cause, corps et âme, sang et cœur. Je suis à vous, bien à vous, tout à vous. Disposez de moi. Hier, je n'appartenais à personne. Ceux pour lesquels en ce moment j'offrirais ma vie, je n'aurais pas fait il y a quelques heures un pas pour les sauver. Maggie se tut.
Étrange femme, pensa le curé marquis.
Elle a raison, murmura Varose. « Celle qui parle ainsi ne peut pas mentir, » s'écria l'accusant presque malgré lui. « Et j'affirmerai sur mon honneur et sur la mémoire de mon père qu'elle n'a dit que la vérité, » fit Raoul à son tour. « Que décides-tu, Jean-Claude ? » demanda le marquis à l'accusant au bout d'un instant. « Il me paraît maintenant certain que cette femme ne nous trompe point et ne se trompe point elle-même. Je crois qu'Antide de Montaigu est un traître. Je crois qu'Églantine est au château de l'Aigle. Eh bien, il faut la sauver, par Dieu. Il faut l'arracher, et cela sans perdre un instant, aux griffes de tigre du masque noir. Appelons aux armes tous les corps francs, dit vivement le colonel, et marchons avec eux sur le château de l'Aigle. L'accusant secoua la tête.
Mauvais moyen, répondit-il.
Pourquoi ?
Parce que faire une guerre ouverte et loyale à un traître et déloyal ennemi, c'est jouer un jeu de dupe. D'ailleurs, attaquer Antide de Montaigu, ainsi que le colonel vient de le proposer, ce n'est pas sauver Églantine, c'est la perdre.
La perdre ? Répéta Varose.
Oui, et voici comment. Entre les mains du seigneur de l'aigle, Églantine est un otage. Antide de Montaigu, voyant sa félonie découverte, se servirait contre nous de la malheureuse enfant et nous menacerait de la faire pendre au créneau de sa plus haute tour au moment du premier assaut. Ce n'est point par la violence qu'il nous faut lui venir en aide, c'est par la ruse. Je vous répète que je veux aller au château de l'aigle et que j'y veux aller seul.
En secret alors, dit Marquis, et à l'insu du sire de Montaigu.
Oui, en secret et à son insu.
Mais comment pourras-tu pénétrer dans une forteresse si bien gardée ?
Je ne sais pas encore. Dieu m'inspirera et me fera trouver un moyen.
Le moyen ! S'écria Maggie. Je vous l'apporte.
Vous, femme ? Murmura le prêtre avec étonnement.
Aujourd'hui, poursuivit la prétendue sorcière, tous les tenanciers du seigneur de l'aigle, et ils sont nombreux, viennent payer leurs redevances. Ce sera jusqu'au soir un encombrement de manants, de chariots et de bestiaux. Pourquoi le capitaine ne s'introduirait-il pas dans le château au milieu des mains mortables, après s'être déguisé en paysan de la montagne, et avoir métamorphosé sa figure au point de la rendre méconnaissable, grâce au suc de certaines herbes que je connais ?
Il faudrait mettre les tenanciers dans la confidence, fit observer le curé marquis, et ce serait dangereux.
Un seul homme pourrait se trouver dans le secret, répliqua Maggie. Et cet homme vous est absolument dévoué. C'est le père de Garbas, qui est tenancier du seigneur de l'aigle, puisqu'il habite le village de Ménétrux-en-Joux.
Rien ne l'empêchera de prendre le capitaine avec lui et de le faire passer pour un garçon de ferme, arrivé ces jours passés du bas-pays.
C'est vrai, dit l'accusant, c'est possible.
C'est facile, pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard.
Il est 1 heure à peine, reprit Maggie, et le défilé des chariots durera jusqu'au soir.
Le capitaine fit retentir ce coup de sifflet que nous connaissons et qui était un signal et un appel.
Garbas accourut.
« Ton père va-t-il au château de l'aigle aujourd'hui ? » lui demanda l'accusant.
« Oui, capitaine.
À quelle heure ?»«
Il m'a dit hier qu'il quitterait la ferme à 3 heures. »«
Quelles sont les redevances qu'il apporte ?»«
3 milliers de foin, 75 écus, 4 sacs d'orge, 3 sacs de blé. »«
C'est bien. Cours au-devant de lui. » Rejoins-le, soit à la sortie de sa ferme, soit en route. Dis-lui de feindre un accident, un essieu rompu, le joug d'un de ses bœufs brisé. Quelque chose, enfin, qui lui fournisse le prétexte d'un temps d'arrêt.
Il m'attendra près du Sceau Gérard.
Tu m'as compris ?
Oui, capitaine.
Pars, et va vite.
Oui, capitaine.
Garbas fit le salut militaire et sortit.
Tu vas te déguiser ? Demanda Varose.
Non, un déguisement me gênerait. Et d'ailleurs, il me serait inutile. J'ai maintenant un moyen sûr de pénétrer dans le château sans être vu.
Sois prudent.
Ne craignez rien. Je pourrais peut-être hasarder ma vie, mais j'ai celle d'Églantine à sauver. Et comme une impudence perdrait cette chère enfant en même temps que moi, je serai prudent.
L'accusant endossa le baudrier qui soutenait sa rapière et mit à sa ceinture son poignard et ses pistolets.
« Capitaine l'accusant, » dit Maggie en ce moment.
« Vous n'avez pas tout prévu. »«
Qu'ai-je oublié ?»«
Par un moyen que je crois deviner, vous allez pénétrer dans le château de l'aigle. »«
Vous y pénétrerez en secret, comme un ennemi. »«
Si vous êtes découvert, ce qui est possible, c'est en ennemi qu'on vous traitera. »«
Que ferez-vous ?»«
Je me défendrai, mordieu. »«
Vous serez écrasé par le nombre. »«
C'est évident, mais au moins je vendrai chèrement ma vie. »«
Je n'en doute point. »«
Mais vous, mort ?» Que deviendra Églantine prisonnière ?
Le capitaine ne répondit pas.
Maggie reprit après un silence.
Ce qu'il vous faut, c'est une chance de salut. C'est une issue pour la fuite. Je viens vous offrir cette chance et cette issue.
Vous êtes allé souvent au château de l'aigle, n'est-ce pas ?
Oui, souvent.
Écoutez-moi et retenez bien ce que je vais vous dire.
Entre la vaste esplanade sur laquelle s'élèvent les bâtiments du château et la pointe du rocher qui sert de base à la grande tour, se trouve un étroit espace, une sorte de fissure qui n'a jamais été comblée. Sur cette fissure est bâtie une voûte qui semble continuer l'esplanade. Au milieu de cette voûte existe un soupirail, percé par l'écoulement des eaux et recouvert par une grille qui n'est point scellée dans la pierre. Grille et soupirail sont à quelques pas de la porte d'entrée de la tour, à l'extrémité de la terrasse plantée d'arbres, qui communique par un escalier à demi ruiné avec la cour de la citerne.
Savez-vous ce que je veux dire, capitaine ?
Parfaitement.
Vous comprenez alors quelle partie un homme résolu, dans un moment de danger suprême, peut tirer de cette issue. Il n'est pas impossible, en soulevant la grille, de se glisser dans la fissure, qui n'a guère que la largeur d'un conduit de cheminée, et tout en se soutenant avec les bras et avec les jambes, pour empêcher la chute d'être trop rapide, de descendre jusqu'au pied des murailles du château. Je sais bien qu'une fois là, il resterait encore à gagner la vallée, en s'aventurant sur une pente presque à pic. Mais pour un homme tel que vous, tout est possible. Et enfin, je le répète, c'est toujours une chance de salut.
Merci, femme, dit vivement l'accusant, merci. Mais comment pouvez-vous connaître ces détails ? Vous avez donc vécu dans le château de l'Aigle ?
Je sais cela comme je sais tant d'autres choses, répondit Maggie. Mais je refuse de donner en ce moment des explications que vous n'avez point le droit d'exiger. Peut-être vous révélerai-je un jour ce que je vous cache aujourd'hui. Ce jour n'est pas venu.
Gardez vos secrets, répliqua l'accusant. Je ne vous en remercie pas moins, et de tout mon cœur, de ce que vous avez fait aujourd'hui pour nous tous.
Puis, se tournant vers ses trois amis, il leur serra la main et dit au curé marquis en ployant le genou devant lui.
« Je pars. Bénissez-moi et priez pour moi et pour celle qui m'attend là-bas. »
Le prêtre étendit ses mains sur la noble tête de l'accusant.
« Va, mon enfant, lui dit-il, que le Seigneur Dieu te bénisse, qu'il te protège et qu'il te ramène. »
Le capitaine s'éloigna d'un pas rapide.
« Femme, dit alors le curé marquis à la vieille Maggie, qui, l'oreille attentive, écoutait se perdre peu à peu sous les voûtes le bruit des pas de l'accusant. « Je ne crois pas que vous ayez menti. Mais enfin, c'est parce qu'il a eu foi en vos paroles que Jean-Claude Prost se prépare à affronter des périls et peut-être des pièges. Ne voyez point dans ce que je vais vous dire une injurieuse défiance. J'obéis aux lois de la guerre. Votre vie me répond de celle du capitaine. Vous resterez ici jusqu'à son retour.
En d'autres termes, je suis prisonnière.
Oui et non. Vous serez traité avec les plus grands égards, mais vous ne pourrez vous éloigner.
Soit, messire prêtre, c'est me rendre le mal pour le bien. Je ne me plains pas. Dieu est grand d'ailleurs, et c'est sa volonté qui sera faite, et non la vôtre.
Que voulez-vous dire ?
Ce que je dis, messire prêtre, ne cherchez point au-delà.
Le curé marquis n'insista point et appela Piedefer. « Emmenez cette femme, lui dit le prêtre. Elle vient de nous rendre d'importants services, et elle doit passer ici quelques heures. Qu'elle ait à manger si elle a faim, à boire si elle a soif, de la paille fraîche et abondante si elle veut dormir. » Et tout bas il ajouta, « Que vos hommes ne la perdent pas de vue un seul instant. Vous me répondez d'elle. »
Le lieutenant emmena Maggie, qui quelques instants après était étendue au fond de la caverne sur des bottes de paille et semblait profondément endormie. Deux montagnards avaient reçu la consigne de la surveiller sans relâche, et docile à cette consigne, il s'était installé à quelques pas d'elle et il la tenait, pour ainsi dire, en arrêt.